Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. Le scandale enfle en France. Naomi Muzanga, jeune femme de 22 ans, a-t-elle trouvé la mort en raison d'une erreur d'appréciation du SAMU, le service de régulation des urgences en France? Pire, est-ce que son cas a été l'objet de moqueries de la part des opératrices de ce même SAMU, comme le révèle un enregistrement qui a été rendu public récemment? Surtout, que faut-il penser de cette affaire? Est-ce qu'elle est symptomatique d'un système de santé qui a longtemps été présenté comme le meilleur du monde, le système de santé français, mais qui aujourd'hui, eh bien, serait en danger, à quelques semaines de la présentation par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, une réforme globale sur le sujet? Faut-il revoir intégralement le fonctionnement du système de santé français? C'est notre débat ce soir. Et à nos côtés en studio, Claude Le Pen, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste de la santé, co-auteur d'un ouvrage qui va nous intéresser, intitulé « Où va le système de santé français ?» En ligne avec nous, Frédéric Pierru, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, chercheur au CNRS, spécialiste des politiques de santé. Le système de santé est à bout de souffle. Nous sommes vraiment arrivés à la fin d'un cycle. Il y a urgence à tout repenser de fond en comble. Ces mots sont signés Patrick Bouet, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, auteur d'un livre choc qui a été publié il y a 10 jours. Claude Le Pen, est-ce que vous partagez le même constat?
Oui, je partage ce constat, sauf que je ne fais pas le lien entre cette tragique affaire de Strasbourg, qui est liée quand même à une défaillance individuelle assez marquée, de gens qui n'auraient jamais dû dire ça et vraisemblablement mal formés, etc.
Bon, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement, c'est un manque de moyens.
Non. Je pense que le SAMU peut former mieux les gens. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui il y a une réunion avec Mme Buzyn pour mieux améliorer le fonctionnement du SAMU. Bon, il y a des affaires de cette nature qui sont tragiques, qui sont regrettables, mais il y a aussi des problèmes plus structurels du système de santé. Je pense que le système de santé français ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Il n'est pas à l'abandon, il n'est pas à l'agonie, etc. Mais il a 75 ans. Hein, il est né il y a près de dans les 45. La société a beaucoup changé et il doit s'adapter à une nouvelle donne, le vieillissement de la population, les changements générationnels chez les professionnels de santé, chez les jeunes médecins n'exercent pas de la même manière, n'ont pas le rapport à leur profession identique à celle, disons, des générations plus anciennes, le progrès technique, les nouvelles technologies, la e-santé, les technologies numériques qui commencent maintenant à impacter la santé, c'était pas le cas. Il y a des inégalités régionales qui se développent, c'était pas le cas non plus, on avait une couverture plus homogène. Donc il y a un certain nombre de défis qui sont des défis de fond, hein, des défis qui sont inscrits dans le mouvement social et auxquels le système doit faire face, et il doit pour cela effectivement réviser un petit peu des modes de fonctionnement qui ne sont plus adaptés à cette situation.
Frédéric Pierru, est-ce que, selon vous, voilà, vous voyez les mêmes défis auxquels sont confrontés, auxquels est confronté le système de santé français aujourd'hui, les mêmes défis que ceux que Claude Le Pen vient d'évoquer?
Alors, ce que vous dites sur l'idée de, enfin, le titre de l'émission est particulièrement pertinent parce que c'est évidemment la refonte du système de santé. Alors, deux choses quand même. Effectivement, les systèmes de santé sont résilients. Donc je dirais, comme Claude Le Pen, qu'il ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. La tendance des systèmes de santé, c'est plutôt de durer, de perdurer même dans leur être, y compris d'ailleurs dans leurs défauts. Hein.
Ça veut dire que vous ne partagez pas le constat du président du Conseil de l'Ordre des médecins qui, lui, dit vraiment que le système est à bout de souffle et qu'on est arrivé à la fin d'un cycle.
Attendez. Le dire que le système ne va pas s'effondrer ne veut pas dire non plus que tout va bien.
Oui, c'est-à-dire
qu'effectivement, on connaît un effritement d'un certain nombre de principes qui avaient fondé notre système de santé. Je pense notamment au principe de l'égalité d'accès aux soins, le principe de la socialisation du financement par la sécurité sociale, etc. Donc effectivement, il y a un effritement qui est inquiétant et qui se manifeste par des dysfonctionnements locaux. Alors effectivement, l'affaire que vous évoquez n'est pas forcément en lien, je dirais, elle m'a l'air assez idiosyncrasique et assez particulière dans l'affaire de Strasbourg.
Oui, mais si c'est un manque de formation, comme l'a évoqué Claude Le Pen, c'est aussi symptomatique d'un problème, d'un dysfonctionnement du système de santé.
Oui, c'est exactement ça, c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que le problème des urgences, en France, souvent on dit finalement l'hôpital n'est pas assez bien organisé, ou alors on dit il n'y a pas assez de moyens, etc. Mais le problème du système de santé et le problème de l'hôpital et des urgences à l'hôpital, c'est un problème d'abord d'amont de l'hôpital. C'est-à-dire que je pense que l'un des principaux problèmes de notre système de santé, c'est que nous avons une médecine libérale qui certes est remise en cause par les jeunes médecins qui cherchent d'autres formes d'exercice, le salariat notamment, cherche à exercer en groupe, mais pour l'instant, si vous voulez, notre système de médecine de ville, qui devrait accueillir, je dirais, la plupart des urgences qui ne sont pas des urgences et qui vont à l'hôpital, eh bien, n'est pas suffisamment organisé dans ce qu'on pourrait appeler un service public de la médecine de proximité. Du coup, il y a une embolie des urgences, et de fait, il y a un productivisme des urgences qui finit par produire, et là, je vais revenir sur l'affaire de Strasbourg, une forme d'indifférence. Vous voyez, quand les gens fonctionnent à flux tendu, quand ils n'ont plus le temps de discuter avec les gens, se développent des formes de cynisme. Alors ça, c'est bien connu en sociologie, des formes de cynisme, de retrait affectif et empathique de l'activité, et ça peut déboucher sur ce type de drame.
Alors on évoquait justement le problème d'hôpital, qui est peut-être, vous me direz, Claude Le Pen, le nerf de la guerre. Qu'est-ce que vous pensez des points soulevés par Frédéric Pierru? Il faut savoir qu'en 10 ans, effectivement, le nombre de passages dans les services d'urgence a augmenté de 29%. Est-ce que c'est quoi? C'est la médecine de ville qui envoie trop souvent les patients à l'hôpital? C'est ça le problème aujourd'hui?
On me demande souvent quel est le problème principal du système de santé français. On en cite beaucoup. Est-ce que c'est la privatisation? Je crois pas qu'il y a de risque de privatisation. Personne n'a envie de privatiser le système de santé français. Je pense que le problème de fond, c'est la relation entre médecine de ville et médecine hospitalière. Bon, on a créé en 58 une médecine hospitalière très séparée de la médecine de ville, pour des raisons qui étaient à l'époque des raisons sanitaires, sociales et qui étaient légitimes. Et aujourd'hui, ce rapport s'est effectivement délité, et l'hôpital reçoit non seulement les soins de haute technologie, les actes chirurgicaux, etc., il reçoit les urgences vraies, mais il reçoit aussi toute la misère du monde, hein, pour paraphraser Michel Rocard. Donc il y a, si vous voulez, il se déverse à l'hôpital tout ce qui n'arrive plus à filtrer une médecine ambulatoire, plus vraiment libérale d'ailleurs, hein, de moins en moins libérale, mais toujours ambulatoire, hein, tente à se regrouper dans les centres urbains, déserte les quartiers, même dans les centres des grandes villes, hein, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous, n'assume plus complètement les tâches d'urgence, et donc il faut recréer un tissu sanitaire en France qui ne soit plus...
Comment y parvenir? Il faut des cloisonnées publiques, privées?
Il faut vraisemblablement inventer des nouvelles formes d'institutions sanitaires. Qui soient ni l'hôpital traditionnel, très très axé sur la technologie et les soins d'urgence, ni le cabinet à l'ancienne du médecin isolé. Il faut vraisemblablement des centres de santé, des maisons de santé. Il faut travailler sur des... ça fait un peu obsolète le mot dispensaire, qui est un mot qu'il faut oublier parce qu'il est connoté médecine ancienne. Mais trouver des formes d'exercice de médecins groupés, ayant accès à la technologie avec des plateaux techniques, hein, pas simplement de la consultation classique, et offrant une alternative au binôme cabinet libéral hôpital, dont l'articulation se fait de plus en plus mal.
Multiplication des acteurs plutôt que la situation
est... Diversifier l'offre de soins et inventer de nouvelles formes d'exercice médical en dehors des formes traditionnelles.
Est-ce que c'est votre avis également, Frédéric Pierru?
Oui, enfin, je ne peux que souscrire aux propos de Claude Le Pen. Il est d'ailleurs assez étonnant d'entendre la ministre de la Santé annoncer, parce que je pense qu'elle va le réannoncer à nouveau, qu'il faut faire un virage ambulatoire du système de santé, c'est-à-dire transférer de l'activité à l'hôpital vers la médecine de ville. Moi, la réalité qui est observable dans les chiffres, c'est pas un virage ambulatoire, c'est un virage hospitalier. C'est-à-dire qu'on assiste à un déport de plus en plus d'activités de la médecine de ville vers la médecine hospitalière, ce qui génère évidemment des embolies. Et puis il y a aussi le problème, on l'a vu avec la crise des EHPAD, l'insuffisance de l'aval de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a insuffisamment de places en point de suite et de réadaptation, de moyens et longs séjours dans les EHPAD, etc. Alors la crise de l'hôpital vient d'abord de son environnement, c'est-à-dire que l'hôpital est devenu le lieu d'ajustement de tous les dysfonctionnements du système de santé. De l'amont, on l'a dit, avec la médecine de ville, de l'aval, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour sortir, par exemple, les personnes âgées, qu'on appelle souvent les bed blockers, qui bloquent les lits, vers des lits d'aval, de soins de suite et de réadaptation, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met sous pression budgétaire l'hôpital. C'est-à-dire qu'on lui dit, vous allez faire toujours plus avec moins, vous allez faire des économies. Donc, il ne faut pas chercher plus loin la crise de l'hôpital public, parce que la crise de l'hôpital public n'est qu'un révélateur de la crise plus structurelle de l'ensemble du système de santé. Dès lors qu'on aura mieux organisé l'amont avec la médecine de ville et qu'on aura investi notamment dans la dépendance, dans la prise en charge des personnes dépendantes, etc., eh ben, on n'aura plus, par exemple, des gens qui passent, des soignants qui, au lieu de soigner, passent des heures au téléphone à essayer de trouver des places pour sortir leurs malades de l'hôpital.
Frédéric Pierrot, vous soulevez le problème du vieillissement. Claude Le Pen, est-ce que le vieillissement de la population, c'est un des mots, finalement, auquel le système de santé français n'a pas su adapter ?
Non, le vieillissement est une bonne nouvelle. Hein. Pour la société française, c'est bien qu'on vive longtemps, etc. Mmh. Bon, donc, faut pas tourner, si vous voulez, ce qui est une bonne nouvelle en catastrophe. Cela étant, il faut s'adapter. Il y a assez peu, si vous voulez, dans une génération âgée de 80 ans et plus, il y a assez peu de gens qui nécessitent, qui sont vraiment en dépendance. On estime à 10 ou 15% d'une génération. Mais pour ces gens-là, il faut s'en occuper. Et c'est des soins lourds. C'est des soins au quotidien, avec des métiers d'accompagnement, d'assistance, pas très techniques, mais avec un grand dévouement. Il faut de la formation aussi. C'est pas simplement des choses disons qu'on a un petit peu négligé. Donc c'est vrai, je suis assez d'accord sur l'idée que, disons, là, on n'a pas complètement géré, disons, cette fraction de la population âgée qui va en institution. La politique française, c'est la priorité, c'est le maintien à domicile. C'est vrai que c'est une priorité, mais il y a néanmoins des cas où il faut penser, et le système des EHPAD aujourd'hui doit être revu. Il y a un autre élément pour conforter un petit peu la logique que nous développons, il y a des systèmes absurdes. Je pense à, par exemple, le système de financement de l'hôpital public. Mmh. Bon, le système de financement de l'hôpital public encourage les établissements à faire de l'activité.
Ce qui, en soi, n'est pas... La fameuse tarification à l'activité, voilà, c'est ça. Un système lourd, il pousserait les hôpitaux à réaliser toujours plus d'actes.
Il pousse les hôpitaux à faire de l'activité. Ce qui, en soi, n'est pas critiquable.
Pour obtenir des financements.
Pour obtenir des financements. Mais n'importe qui produit plus, a plus de financement, c'est assez normal. Bon. Sauf que, on boucle, ce système est bouclé par un couvercle, quelque sorte, qui est voté par le Parlement et qui bloque les crédits. Donc finalement, d'un côté, on pousse les hôpitaux à faire de l'activité, et pour l'autre, et d'autre côté, pour ça dépasse pas ce plafond, on baisse les tarifs.
Et ça crée le déficit actuel.
Et donc, ça crée pas de déficit, ça crée quelque chose d'assez paradoxal, c'est que les gens travaillent plus, et pour éviter le déficit, on baisse le tarif de ce qu'ils font. Donc les hôpitaux travaillent plus pour gagner moins, ce qui est ou en tout cas pour ne pas gagner plus, pour rester dans cette enveloppe globale macroéconomique. Il y a une tension, si vous voulez, entre le niveau microéconomique des acteurs qui veulent travailler plus pour gagner plus et le bouclage macroéconomique voté dans les lois de financement qui limite complètement les retombées budgétaires de leurs efforts. Donc les professionnels ne comprennent pas ce système.
Frédéric Pierru, votre analyse, vous, justement, sur la question du financement, est-ce que c'est le principal enjeu, parce qu'il y a une réforme qui est annoncé dans les prochaines semaines par Agnès Buzyn, on annonce 100 millions d'euros par an. Est-ce que ce sera le nerf de la guerre, la question de l'équilibre budgétaire à nouveau ?
Oui, ça va devenir l'équilibre budgétaire. De toute façon, c'est l'alpha et l'oméga du pouvoir public depuis au moins 20 ans. Mais je vais revenir sur la tarification à l'activité. Parce que la tarification à l'activité, comme l'a dit très bien Claude Le Pen, la tarification à l'activité dans un budget fermé, c'est un non-sens. Ça transforme en gros les soignants en hamsters dans une roue qui tourne de plus en plus vite. Et plus ils tournent vite, plus ils sont condamnés à tourner vite. Mais comme je l'ai dit, ça a des implications pratiques dans le travail, c'est-à-dire des formes de découragement, des formes de retrait affectif ou empathique dans l'activité. Donc, il ne faut pas s'étonner aussi, voire proliférer des attitudes, je dirais, de cynisme, de gens qui de burn-out. Vous savez, c'est ça. Ça commence toujours le burn-out par des. On s'investit beaucoup dans son activité, puis on est tellement déçu après qu'on adopte des postures cyniques, agressives, etc.
Bien sûr.
Mais je reviendrai.
Mais sans rentrer dans le détail, qu'est-ce que vous proposez? À la place justement de cette tarification à l'activité.
Les pouvoirs publics ont tellement investi dans la T2A qu'ils n'ont jamais pensé de système alternatif. Donc je ne vois pas ce que va annoncer Agnès Buzyn, parce que le financement au parcours, ça reste pour l'instant un slogan qui n'est absolument pas technique.
Alors je vous reprends dans un instant, mais Claude Open, vous avez piste sur le remplacement de la tarification à l'activité.
En tout cas, on voit dans quelle direction va aller le gouvernement. Il va vraisemblablement essayer de scinder le budget des hôpitaux en deux, entre des activités qui sont liées à l'activité et des activités qui ne sont pas liées directement à l'activité. Donc à voir un petit peu ce qu'on a fait sur les soins de suite et de réanimation, le SSR, où vous avez une espèce de mixte budgétaire avec un fonds budget constant qui ne dépend plus de l'activité et qui est fixé avec un taux de progression raisonnable, mais en fonction du coût de la main d'œuvre, etc. Enfin, du coût des salaires de la fonction publique hospitalière. Et puis un volet au-dessus supplémentaire pour inciter à l'activité, parce que le système précédent qui a précédé la tarification à l'activité avait des effets pervers inverses. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait un budget global et au fond moins les hôpitaux travaillaient, plus ils étaient contents. Hein, donc bon. Donc il faut vraisemblablement l'idée idiote, c'est d'avoir un système unique qui couvre toutes les activités d'un pôle de production de soins qui a une activité très différente. On veut tarifier l'activité alors qu'il y a plusieurs activités. Et donc chaque activité doit avoir son propre mode de financement. Et je pense qu'on est assez, on va vraisemblablement aller dans ce sens-là. À côté de ça, M. Pierru rebondait sur des nouvelles formes. Alors c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup à la tarification du patient, le financement suivant le patient, etc. Tarification au parcours de soins, tarification à l'épisode de soins. Il y a beaucoup de réflexions théoriques, mais pour l'instant, ça reste assez théorique.
Frédéric Pierru, on va élargir un petit peu le débat et sortir de la question du financement, même si on a bien compris qu'elle était primordiale. On a dit pendant longtemps que le système de santé français était le meilleur du monde. Cette question est remise en cause. On a bien compris ce soir que ce système est à bout de souffle. De quel système de santé à l'étranger faudrait-il s'inspirer ? On dit que le système allemand aujourd'hui est considéré comme le meilleur en Europe. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Non, ça me fait toujours rire quand on veut faire des modèles, parce que c'est une conception, je dirais, mécano de la réforme, c'est-à-dire il suffirait d'emprunter à des pays étrangers des formes d'organisation et des outils, et puis on ferait un mécano, et puis on aurait le meilleur système de santé du monde. Alors évidemment, les choses sont toujours beaucoup plus compliquées que ça. Non, le système allemand, d'ailleurs, puisqu'on parlait de l'hôpital, est un contre-modèle, parce que en termes de lits d'hospitalisation, de la place des dépenses hospitalières dans l'ensemble des dépenses de santé, c'est exactement le contraire de ce que veut faire le gouvernement. Donc c'est assez frappant.
Il y a beaucoup moins de lits d'hôpitaux en Allemagne qu'en France.
Ah oui, oui.
Non.
Alors moi, c'est 3,9 en Allemagne, 6,1 en France pour 100 000 habitants.
Non, c'est pas ça les chiffres. Mais bon, on va pas discuter sur les chiffres. Non, ce qu'il faut, c'est un système beaucoup plus intégré. Et donc je serais plutôt à m'inspirer des systèmes beveridgiens. D'accord. À titre personnel, c'est-à-dire des systèmes type, alors quand on dit le NHS, tout le monde part en courant, hein, parce que c'est, alors que le principal problème du NHS, c'est pas qu'il est mal organisé,
le c'est qu'il NHS, est sous-financé.
À le National Health Service, c'est-à-dire le système de santé britannique, mais je pense que si on devait s'inspirer à tout prendre, je prendrais les pays scandinaves. Voilà, c'est-à-dire à la fois une médecine de proximité très bien organisée, avec effectivement des structures de soins de premier recours qui sont collectives, pluriprofessionnelles, une place de l'hôpital pour les soins, techniques, de pointe, etc. Et puis, effectivement, des lits d'aval, bien organisés, etc. Bon, voilà. Donc, je pense que déjà, avoir un système très intégré, aller vers une intégration croissante du système, parce que le grand défi de notre système, c'est les maladies chroniques. C'est les maladies chroniques, ce n'est plus des épisodes de soins aigus. Et donc, il faut coordonner les différents compartiments du système de soins. Et à ce niveau, il me semble que les systèmes, disons, beveridgiens sont plus performants.
Claude Lopel, vous êtes partagé sur cette proposition.
Disons qu'il y a une performance technique. Ils sont pas non plus très performants dans la queue des patients. On fait les queues. Il y a des listes d'attente. Le degré de satisfaction de la population anglaise vis-à-vis de son système est assez faible.
Le degré de satisfaction aujourd'hui en France, il est à la baisse.
Et on a vu cet hiver avec la crise de la grippe en Grande-Bretagne qu'il y a eu aussi des scandales hospitaliers, des gens qui étaient dans les lits, etc. Donc bon. Et mais en gros, c'est vrai qu'il y a pas de modèle. Il y a pas de modèle. Et dans chaque pays, on a un peu cette équation de gens qui aiment leur système et qui le critiquent. Hein. On a un petit peu tout pays, un petit peu cette ambivalence vis-à-vis de leur système de santé. Je crois que je suis assez d'accord sur l'idée d'intégration et notamment plus forte de la ville de l'hôpital. Je crois que les Français sont assez attachés quand même à une certaine mixité. Mixité du système, mixité privé-public, mixité ambulatoire, hospitalier, etc. Et qu'un système moniste, c'est entièrement étatisé ou un système entièrement complètement privatisés, ne leur plaît pas, ils veulent l'alternative, et donc cette espèce de mixité, alors qu'il fallait peut-être toucher en fine-tuning l'équilibre, si vous voulez, de la mixité, certainement, mais de là, à faire un système intégralement public, je crois pas que ça soit dans les gènes de notre système de 45.
Bon, bah, de toute façon, on risque pas de changer du jour au lendemain d'un système qui existe effectivement depuis des dizaines d'années. Merci beaucoup Claude Le Pen, économiste de la santé, professeur de sciences économiques à l'université Paris-Dauphine. Merci également à vous, hein, Frédéric Pierru, qui était en ligne avec nous, sociologue, chercheur au CNRS, spécialiste des politiques de santé. Débat préparé par Florence Ponce, réalisé par Valentin Vanner. Le retour de l'info dans 30 secondes sur RFI.